Alors, je tiens à remercier le CRILC de recevoir ce soir Martine Delvaux. Martine est l'auteur de 5 livres, si je ne me trompe pas. Alors donc, de Femmes psychiatrisées et Femmes rebelles, qui a été publié aux empêcheurs de tourner en rond. Ça, c'est son premier essai. Son deuxième essai a été Histoire de fantômes, spectralité et témoignages dans les récits de femmes contemporaines au Prince de l'Université de Montréal. Ensuite, elle a publié 2 romans, Échographie, qui a été publié chez Vendouest. Et le tout dernier, c'est C'est quand le bonheur, chez Héliotrope. Elle a aussi écrit un livre en collaboration avec moi, qui a été publié chez les MEAC, qui s'appelait Ventriloquie. Alors Martine, je suis très contente de pouvoir te parler ce soir, aussi un petit peu nerveuse, parce que comme on se connaît, c'est toujours un peu plus difficile de jouer dans l'intime, mais en tout cas, c'est un grand plaisir. Et,
merci à toi.
Mais de rien. Et je vais peut-être te demander de commencer par lire un extrait de C'est quand le bonheur, donc de ton dernier roman publié. Et puis, j'expliquerai après pourquoi on a travaillé un peu sur l'écho ce soir, ou on va travailler sur l'écho.
Alors, un jour, il m'a dit, tu n'as pas d'imagination. J'ai dit, tu as tout à fait raison. Je ne sais pas tirer le fil d'une histoire. Je ne sais pas inventer. Je ne sais que noter toutes ces choses que je prends aux autres et que je fais tourner. Des choses que je note au jour le jour parce que je n'ai pas, non plus, beaucoup de mémoire. Je ne porte en moi que des bribes de phrases, des restes, des bouts de ficelle volés. Je lui ai dit qu'en faisant le tour de ceux qui m'entourent, je finirais bien par arriver à moi. Je ne lui ai pas dit que les autres, c'est lui. Il a été mon premier lecteur, conscience perchée sur mon épaule. J'écris toujours pour lui, j'écris tout contre lui, comme quand on dormait en cuillère. À partir de maintenant, je vais le détailler tendrement. Je vais amasser les indices, faire l'inventaire, lancer en l'air ma collection de souvenirs, pour voir sous quelle forme ils vont retomber à mes pieds, à la manière de bouts de bois ou de feuilles de thé, pour connaître l'avenir. Je ne sais pas s'il faut croire au destin ou au hasard, à une bonne étoile ou à une fée marraine. Je ne saurai jamais pourquoi il s'est retrouvé un jour assis près de moi, ni pourquoi, après, il est resté. Avant de devenir mon ami, il était celui que je voulais avoir comme petit ami. Comme il était déjà celui d'une autre, il a été mon ami, avant de devenir le petit ami qui deviendrait l'ami qu'il est pour moi, mon plus grand ami. Un jour, il m'a dit « Cette histoire est privée ». J'ai dit, je veux la célébrer. Ceci est une biographie de l'amitié.
Merci. Alors, je vais commencer par te poser une question qui est un peu une boutade, mais est-ce que c'est vrai que tu n'as pas d'imagination?
Oui.
Mais je t'ai cru parce que je me suis dit, en cause de peut-être le thème de la soirée, ça c'est la question de l'écho, c'est-à-dire ce que tu dis dans le texte, je ne sais pas inventer, je ne sais que noter, je vole des morceaux, je vole des bribes. Mm-hmm. Je me suis dit que ça pouvait être l'entrée en matière de notre propos, c'est-à-dire ton écriture comme écho. Des autres, comme écho, en plus, puisqu'il y avait le titre de ton deuxième roman, mm-hmm, qui s'appelait Échographie, où là, tu fais un portrait de ta fille, de ce que va être, mm-hmm, ta fille, et là, où tu fais le portrait de quelqu'un, mm-hmm, qui a été un ami, je me suis demandé quelle était la place de l'autre dans ton écriture. Alors, la place qu'on pourrait thématiser comme l'autre, l'objet, mais aussi quelle est l'impulsion que te donne l'autre dans l'écriture?
Ouais, c'est ce qui touche au cœur, je pense, de ce que j'essaye de faire dans l'écriture, même si ça se déplace. Hein, donc, je dirais que là où je suis le plus à l'aise, c'est quand je suis devant une proie potentielle que je peux happer et traduire par l'écriture. Et en pensant à aujourd'hui, comme tu m'avais parlé de l'écho, je me disais peut-être qu'un autre terme qui pourrait être intéressant pour moi, c'est la traduction, justement, comment on transfère, comment on peut traduire dans une autre langue ou faire apparaître ce qui n'apparaît pas au départ. Mais c'est vrai que l'autre est éminemment présent dans ce que je fais comme travail de fiction et que j'ai envie de saisir, d'attraper quelque chose ou enfin, le plus souvent quelqu'un qui m'échappe. Mais alors, ce qui est intéressant ou ce qui me semble pour moi intéressant quand j'arrive à avoir un peu de recul sur ce que j'essaye de faire, c'est que dans le dernier roman, donc celui qui va paraître, les autres deviennent l'absence. En fait, j'ai essayé de travailler à rebrousse-poil. Si on veut, j'ai travaillé sur la trame de l'absence plutôt que sur le désir d'attraper quelqu'un qui existe au départ, si on veut. Donc, je suis toujours dans ces allers-retours en lien avec l'autre. Et sûrement que l'image de l'écho est au plus proche de ce travail qui consiste peut-être à trouver la bonne distance, à s'approcher et à reculer, et en s'approchant au plus près, au fond, à être au plus loin en même temps. Je pense que mon travail se traduirait comme ça. On m'a accusé, on pourra m'accuser, on m'accusera sans doute encore, de voler la vie des gens, et c'est ce qu'on a déjà reproché à d'autres auteurs, et je le fais, sciemment, délibérément, mais je le fais, je pense, dans le désir de toucher à quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus universel que la vie singulière que j'essaie d'attraper. Et donc, c'est cet exercice-là qui m'intéresse. Donc, c'est pas du vrai pillage, je dirais, c'est plutôt de la traduction, donc du singulier à l'universel.
Alors, il y a dans la structure d'écho que tu mets en scène, il y a deux choses. Il y a c'est quand le bonheur, il y a tout le rapport à la voix, c'est-à-dire à la voix de ce personnage principal que tu vas garder, que tu vas faire résonner à travers le livre. Alors que dans Échographie, où tu parles d'un peu de la naissance de ta fille, on n'est pas dans le même rapport à la voix. On est beaucoup plus dans un rapport à la vue, à faire apparaître, mais quelque chose qui serait de l'ordre du visuel. Comment tu verrais ça un petit peu, cet écho-là? Est-ce que tu le verrais? Est-ce que il y a une différence de travail entre
Absolument.
Les deux?
Absolument.
Et dans le prochain, alors, est-ce que tu verrais?
Il est peut-être entre les deux. C'est-à-dire que, comme le prochain travail sur l'absence, il est plus proche d'échographie dans la mesure où il veut faire apparaître de la disparition. Donc, je suis dans ce travail-là. En même temps, quand je retravaille ce prochain roman, je me rends compte que l'expression « on dit » est là sans arrêt. Donc, je suis dans une traduction encore de propos, mais là, de propos qui sont plus loin de moi, qui sont des propos du fait divers, de ce qui circule dans le langage populaire. C'est une collection sonore, un espèce de sampling, si on veut, mais qui est différent. Dans ces camps de bonheur, c'était presque... on m'a dit que ce travail relevait d'une sorte d'autopsie, d'une dissection, que j'étais comme un entomologue, enfin bon. Et c'est vrai que je me suis penchée sur un objet humain et que j'ai noté, j'ai littéralement fait ce travail un peu comme un détective, à essayer de trouver des indices et à prendre en note, à comptabiliser un savoir sur cet individu. Pour le prochain roman, Missing, c'est pas du tout le même travail, puisqu'il s'agissait au départ de faits divers, de journaux, mais il y a un processus de sampling, donc auditif. Et il y a un travail sur l'image, sur ce qui n'apparaît pas. Donc, je le verrais comme un peu à la convergence d'échographie et de « C'est quand le bonheur ».
Et peut-être une question plus d'ordre anecdotique, mais c'est toujours difficile d'écrire le deuxième roman parce que le deuxième, on vous attend un petit peu au tournant. Le premier, c'est la naissance. Le deuxième, on vous attend au tournant. Et là, je pense que tu as été très contente de la réception que tu as eue avec « C'est quand le bonheur ». Alors, c'est quoi le troisième roman? Qu'est-ce que c'est par rapport à cette suite de l'œuvre?
Ouais, enfin, je ne sais pas si on peut encore parler d'œuvre. Quand on pourra en parler, je serai contente.
Ben, ce soir.
Oui, ça. j'ai essayé de réfléchir à ça toute la journée, en fait, d'essayer de nommer ce que j'essaie de faire dans ce troisième roman. Je ne sais pas si ce n'est pas plus facile le troisième que le deuxième, c'est-à-dire que je me sens moins attendue au tournant. Et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de moi, il y a toujours un déplacement, on n'écrit jamais la même chose et le travail n'est jamais le même. Et je sens ça très bien avec le troisième. Je trouve que c'est une grande liberté. C'est-à-dire qu'il y a une libération qui s'opère dans le travail de l'écriture. Il y a aussi tout un... Bon, je travaille d'un point de vue... en fait, dans une perspective autobiographique, autofictive, peu importe, le mot m'intéresse peu, mais le point de départ, c'est moi. Mais plus les livres avancent, moins ce point de départ qui est moi est clair. C'est-à-dire, plus je me déplace, plus je m'éloigne un peu de moi-même, si on veut. Et donc, dans le dernier, paradoxalement, c'est construit autour de souvenirs d'enfance, qui sont encore là, de l'ordre d'une sorte de traduction d'un passé que j'essaie d'attraper, donc un peu sur le mode de « C'est quand le bonheur ». Mais par le biais, je fonctionne par cercle concentrique où je m'éloigne de plus en plus de moi par le biais de cet apport des faits divers, de l'histoire d'autres filles et d'une sorte d'universalité, si on veut, de ce que c'est qu'être une fille. En fait, c'est le point de départ, c'est qu'est-ce que c'est une fille, qu'est-ce que c'est être une fille. Donc le point de départ de Missing, c'est ça.
Tu parles un peu de ce rapport à l'autobiographique. Tout à l'heure, tu as dit qu'on t'avait reproché et qu'on te reprochera encore de piller la vie des gens. J'aimerais un petit peu que tu nous parles plus de ce rapport au privé que tu as, c'est-à-dire à l'intime. Est-ce que tu penses que tu as tous les droits en tant qu'écrivain? Ou est-ce que tu penses qu'il y a une certaine éthique que l'écrivain doit respecter
C'est un énorme problème.
Oui, mais c'est pour ça que je le pose.
Je pense que j'ai tous les droits et je pense qu'il y a une éthique. Donc, voilà. Et donc, quand j'écris, je fais les deux à la fois. Oui. C'est-à-dire que je me donne tous les droits et après, je me censure. Mm-hmm. Et je me censure pour des raisons précises, c'est-à-dire pour ne pas blesser, pour... est-ce que c'est pour épargner? Je ne sais pas. Je pense que j'ai du mal, ou j'aurais du mal à accepter d'écrire pour moi un livre qui serait rendu public, qui aurait pour effet... ou pour but délibéré de régler des comptes. Mm-hmm. Je pense que moi c'est pas mon approche ou c'est pas ce que je trouve dans l'écriture. Ceci dit, dans une première version, c'est pas dit que c'est pas là. Mm-hmm. Et après, il y a un travail qui consiste à amener l'intime sur la place publique. Mm-hmm. Et je pense que là, il y a un travail qui se fait. Il y a une traduction justement de l'intime sur la place publique. Donc tout est permis et en même temps, pour moi, tout ne l'est pas quand on se trouve devant la possibilité d'une publication. Et là, il faut prendre en compte un certain nombre de choses. Ceci dit, je ne prends pas tout en compte. Et donc, oui, je sacrifie des choses, voir des gens, voir des relations, voir, bon, il y a un prix à payer dans l'écriture, je crois. Sinon, on n'écrit pas. Enfin, pour moi. Et quand on écrit d'un point de vue autobiographique, forcément, il y a des gens qui sont éclaboussés et dans la vraie vie. Et bon, ben, là, il faut après négocier ces éclaboussures, mais il y en a. Donc, c'est le prix qu'il faut payer.
Et tu es prête à le payer?
Je l'ai payé et je vais continuer à le payer, oui. Mais bon, il y a des limites à ce que je me permettrais de faire, ça c'est sûr.
Alors, pour parler d'un autre crime, parce que là, c'est le crime de, c'est du le viol crime, de l'intimité, ouais. L'autre crime dont tu parles au début du texte, c'est le plagiat. C'est-à-dire, bon, c'est sûr en plus que c'est un problème qui est très présent quand on est à la fois professeur d'université, même en grève.
J'étais tenue de le dire, d'ailleurs.
Et écrivain. C'est-à-dire que je pense qu'on est hanté par les textes des autres, et même souvent on a envie de les copier.
Absolument.
Hein, et on le dit.
On les copie.
On les copie. Et dans une époque où le plagiat est de plus en plus interdit à l'université, sous peine de je ne sais quoi, comment tu réagis ou comment tu penses le plagiat dans ton travail?
Mon Dieu, je le pense comme inévitable, d'une part. Ensuite, comme un droit qu'on a. Bon, si on a tous les droits, on a le droit de ça aussi. Et je pense qu'on le fait délibérément, pas délibérément, que ça fait partie du travail d'écriture. C'est quelque chose que que tu m'as aidé d'ailleurs à entendre, à accepter. Il y a un moment où il faut lâcher cette idée qu'on peut avoir, qu'on peut être original, qu'on n'est pas du tout contaminé par ce qu'on lit. C'est tout à fait le contraire. Et je sais très bien ce que je lisais pour tel roman, qui m'influençait, quelle voix. Et en fait, je ne sais pas si dans mon cas, le plagiat, parce qu'il y en a, il se trouve justement dans cette recherche de la voix. Je pense que c'est ça, dans un rythme. Peut-être que pour moi, écrire a moins à voir avec ce que je raconte qu'avec la musique de ce que je raconte. Et d'ailleurs, je plagie Ango qui dit ça, qui dit, elle parle les phrases, elle les dit à haute voix pour entendre comment sa langue tourne. Mais c'est un peu comme ça que j'écris, moi. Ce qui compte pour moi, c'est le rythme de la phrase, comment les mots s'agencent, comment ça sonne. Et pour trouver cette sonorité particulière, je lis des auteurs. Et il y a des auteurs que je lis et relis. Je peux relire la même phrase sans arrêt pendant que j'écris. Donc, je ne la plagie pas au sens propre, mais je la plagie d'une certaine façon parce qu'elle me reste dans l'oreille. Et c'est ce que je garde. À ce niveau-là, ou en ce qui concerne cette question-là, j'ai pas trop honte. Enfin, j'ai pas d'a priori négatif. Je pense qu'on fait tous ça. Et qui plus est quand on est prof de littérature, où on est absolument hanté par tous ces textes qu'on lit, qu'on décortique, qu'on analyse, qu'on traduit, qu'on enseigne, et on ne peut pas s'en défaire. Et je pense au contraire, il faut s'en servir, se servir d'eux. Ouais.
Mais j'avais envie de te poser la question de l'influence aussi, mais avant de ça, il y a un mot que tu viens de dire, j'ai pas trop honte, et je me demande, est-ce que l'écriture est liée à la honte? Est-ce que tu penses que l'écriture est liée, parce que là je disais au crime, j'ai un peu blagué là-dessus, mais est-ce que tu penses que pour toi il y a quelque chose de honteux dans l'écriture ou dans la place de l'écrivain? Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas noble, l'écriture?
Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas noble? Non, je dirais le contraire. Pour moi, c'est peut-être la chose qui est le la plus noble.
Mm-hmm. Alors, qu'est-ce qui est honteux?
Mais ce qui est honteux, c'est le fait qu'on apparaisse dans l'écriture. Je pense, pour moi, c'est là la honte. C'est-à-dire que c'est pas l'acte d'écrire, mais c'est le fait de publier. Mm-hmm. Et c'est symptomatique. C'est-à-dire, je publie des trucs, là, j'ai relu parce que je venais faire cette rencontre, je me souviens plus de ce que j'ai écrit. Donc, j'efface automatiquement. Une fois que c'est publié, ça n'existe plus. Bon, c'est symptomatique de cette honte. Je pense que du moment que ça apparaît, bon, après, il y a une sorte de... comme de droit de réserve, là, qui fait que je me protège comme ça, parce qu'il y a une honte. Il y a une honte à apparaître, pour moi. Enfin, c'est pas le cas de tous les gens qui écrivent, mais pour moi, s'il y a une honte liée à l'écriture, c'est dans le fait qu'on apparaît sur la place publique. Mm-hmm. Et tout le sport, il est là, parce que sinon, bon, j'écrirais pour mes tiroirs, comme bien des gens le font. Donc, le travail, pour moi, il consiste à accepter d'apparaître. Donc, ouais.
Donc, c'est pas tellement... c'est pas seulement le fait de montrer les autres, c'est-à-dire de piller la vie des autres, non. Mais c'est aussi sa propre, montrer sa propre honte à soi.
Absolument,
hein, dans le
oui,
sens
oui,
presque ancien du terme honte comme sexuel.
Oui, tout à fait. Oui, parce que je dirais, les gens que je pille, enfin ceux que je fais apparaître, disons, à côté de moi, auprès de moi, ou bon, qui me servent, en général, ils sont assez glorifiés. C'est-à-dire, c'est pas des gens que j'attaque. Donc, celle qui a plus de... qui prend plus de risques dans l'apparition, c'est moi. C'est-à-dire, c'est l'héroïne qu'on peut associer à la personne que je suis dans la vraie vie parce qu'il y a un jeu et puis que, bon, on fait l'équation. Alors, je dirais que c'est plutôt moi qui me mets en péril là-dedans que ceux que je fais apparaître. Bon, eux ne sont peut-être pas d'accord, mais...
Donc, tu penses qu'il y a vraiment une scène... moi, j'appelle ça la cruauté, c'est-à-dire, moi, je trouve que l'écriture est liée à une certaine cruauté envers soi.
Oui.
Tu serais d'accord avec ça?
Oui, je suis plutôt pas d'accord avec le cliché qui consiste à dire qu'on souffre en écrivant. Mm-hmm. Ça, c'est un truc que moi, auquel j'adhère pas. Je pense que c'est pas vrai, ou en tout cas, c'est pas une souffrance qui est différente de celle qu'on vit pour d'autres activités. Mais il y a une cruauté faite à soi, il y a une violence faite à soi, ouais. Mm-hmm. En tout cas, dans mon cas, ouais. Par rapport à cette apparition. Est-ce qu'on peut mettre sur la page, est-ce que ça dit de nous? Bon, ça aussi, c'est un cliché, mais on est quand même assez dénudé dans un livre. Et il faut vivre après avec ce que les gens peuvent y trouver, pensent y trouver, nous renvoient, bon, tout ce jeu-là. Parce qu'après, les livres sont aussi des armes dans les rapports humains. Donc, c'est accepter de se mettre un peu en péril par rapport à ça.
Ben, peut-être, alors, je vais arriver à cette question sur les influences, sur ton rapport à la théorie aussi. C'est-à-dire que, bien sûr, ton écriture est influencée par des écrivaines, très sérieusement, mais aussi par des théoriciens, et particulièrement par Derrida, puisque ça se voit beaucoup dans ton livre « Histoire de fantômes ». Et d'ailleurs, dans « Histoire de fantômes », tu as un chapitre qui s'appelle échographie, qui est en écho avec ce qui se passe dans échographie.
C'était le début, en fait.
C'est
la première version.
Tu reprends. Je voulais te demander d'abord, est-ce que l'influence de la théorie sur ton écriture d'essai, bien sûr, mais aussi sur ton écriture fictionnelle, et puis aussi de protection. Est-ce que la théorie est une protection dans l'écriture? Est-ce que c'est difficile de ne pas être un écrivain... cérébrale.
Oui,
est-ce que c'est difficile de sortir de la place professorale ou d'autorité dans l'écriture?
Oui. Je pense que ça, c'est un défaut, vraiment un défaut académique. Là. C'est là où la formation vient, vient parasiter la création. En même temps, j'ai envie de le prendre à l'envers puis de dire c'est ce qui m'a permis d'écrire. Parce que ce que j'ai... Bon, c'est pas du tout présent dans mes signes. Donc, c'est là qu'il y a aussi un déplacement. Et dans C'est quand le bonheur, la théorie est beaucoup moins présente. Elle reste en termes de forme. Je pense qu'on va en parler aussi. Si je choisis le fragment, c'est que c'est quand même proche d'une forme philosophique que j'ai beaucoup fréquentée. Et il y a une sorte de... Il y a quelque chose qui me rassure dans cette forme-là. Et plus ça avance, plus ce fragment s'allonge. Donc, il y a quelque chose qui se libère par rapport à ça. Mais le rapport à Derrida, il s'est joué pour moi, bon, autrement que ce qu'on pourrait penser, c'est-à-dire que c'est bien sûr le philosophe, le penseur qui m'intéressait, mais c'est surtout l'écrivain qui était Derrida qui m'interpellait. Et donc, je ne me suis jamais considérée comme une Derridienne, par exemple. Je n'ai pas envie de donner des séminaires de thèse sur Derrida. Je ne suis pas une spécialiste de Derrida philosophe, mais j'ai été inspirée, pour utiliser ce mot, par ce que Derrida faisait avec la langue et par ce que lui trouvait dans l'écriture comme dans l'écriture théorique comme lieu d'expression de soi. Et donc, c'est là que Derrida m'est apparu important. C'est là que j'ai voulu aller le chercher. Et Histoire de fantôme reste un essai, mais un essai qui se défait au fil des pages. C'est-à-dire, la dernière partie est construite de textes qui sont à la jonction du théorique et du fictionnel, mm-hmm. parce que je voulais aller trouver chez Derrida cette permission. Donc, s'il y a, c'est un peu un père littéraire, un père spirituel, Derrida, dans la mesure où il m'a donné le droit d'aller explorer des zones grises entre le théorique et le fictionnel, ce que l'université ne nous permet pas forcément ou facilement de faire. Donc, c'est là que j'ai trouvé une liberté. Et après, des auteurs comme Blanchot, par exemple, mm-hmm. Comme Barthes, qui a une influence énorme en termes de forme, mm-hmm. M'ont permis, par l'usage du fragment, par l'investissement d'une parole qui est entre la pensée et la poésie, c'est-à-dire entre le réflexif et le lyrique, de développer quelque chose, d'élaborer une voix qui serait peut-être la mienne.
Mm-hmm. Et tu me dis que de cette parole-là, quand même, que cette parole qui serait... entre les deux, qui sera entre la théorie et la fiction, tu es en train de te débarrasser. C'est-à-dire que tu as le rêve d'un roman qui soit...
un vrai roman. Ben, je ne sais pas si j'en ai le rêve, parce que je me rends compte que ça se fait tout seul.
Oui.
Hein, y a quelque chose qui est en train de disparaître. Et je me suis rendu compte du travail que ça me demandait par ailleurs, parce que ça ne s'est pas fait tout seul, mm-hmm. tout seul. Il a fallu que je me rende là, que je fasse un certain travail pour y arriver. C'est que si on me dit, bon, où est-ce que tu es le plus... C'est quoi la zone de confort? Où est-ce que tu es le plus à l'aise quand tu écris? Ben, c'est dans cette forme qui est celle d'échographie, par exemple, où il y a un fragment un peu philosophique, un peu lyrique, un peu récit, un peu tout ça. Ben, ça, c'est vraiment la zone de confort. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, donc, il faut que je me déplace. Mm-hmm. Donc, il faut que j'aille ailleurs, parce que cette zone de confort, je peux l'investir et ça va faire recette. Et puis, ça va... je peux le faire et le refaire sans arrêt. Comme je peux aussi... je pense assez être très à l'aise dans donnez-moi une vie et je vais l'écrire dans ce travail-là. Raconte-moi ta vie et puis je vais la traduire sur papier. Je vais en faire un beau livre. Je peux faire ça. Et le dernier roman, ben je me suis déplacée parce que j'ai essayé de faire ce qui ne me met pas à l'aise. Mm-hmm. Donc je me suis éloignée.
Mais c'est comme si tu décrivais un processus de ta naissance ou de tes naissances multiples à l'écriture. Hein. C'est comme si l'écriture s'était faite par à-coup ou par divers accouchements. Mm-hmm. Et la question de la naissance, elle est très importante aussi dans ton travail. Dans Ventriloquie, elle a été importante. Dans Échographie, mais même dans pas mal de tes textes, c'est quand même très important. Même la mère dans
C'est
quand
le
bonheur. Qu'est-ce que c'est mettre au monde?
Oui, hein. Tout à fait.
Et on dirait que mettre au monde, ça ne se fait pas en une fois.
Ah ben non, ça se fait probablement en plusieurs fois et c'est jamais terminé. Ouais, sûrement. C'est un des commentaires qu'on m'a fait sur Échographie, c'est bon, ça raconte la maternité, donc avant, pendant, après, et en même temps, c'est un livre qui m'a mis au monde comme auteur, mm-hmm. c'est sûr. Donc ça se fait en aller-retour. Je pense qu'on a ben, peut-être que c'est ça, qu'on ne devient pas écrivain. Même ça, me dire auteur, ou je pense qu'il y a quelque chose que je remets toujours sur la table. C'est toujours à recommencer. C'est une naissance qui n'arrive jamais, d'une certaine façon.
Comment tu l'envisages maintenant? C'est que cette naissance sera toujours à faire ou tu penses qu'il y aura peut-être quand même... Ma question, c'est est-ce qu'il serait souhaitable dans ton écriture qu'un jour...
que ça arrive?
Oui.
Ben oui.
Oui.
Oui, je pense. Oui. Comment? Je ne sais pas. Est-ce que je vais m'accorder ça? Je ne sais pas. Peut-être que Missing est une autre étape. Enfin, je le sens comme ça. Tantôt, tu me posais la question du, écrire un vrai roman. Et c'est vrai que, je t'ai déjà dit, j'ai ce prochain roman, j'ai envie que ce soit une histoire d'amour, que ce soit la troisième personne. Enfin, bon, les trucs auxquels on se raccroche comme des signes d'un genre qui est le plus... le moins proche de l'autobiographie, le moins proche de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Est-ce que ça sera la naissance, l'ultime naissance? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il faut, jamais, que ça arrive. Je ne sais pas. J'ai du mal à répondre à ça.
Non, je ne sais pas non plus la réponse. C'est juste que je me demande si... c'est parce que je pense à... En ce moment, je lis pas mal Barthes, puis je pense au fantasme, au fantasme de l'écriture. Et je me dis, est-ce que ton fantasme... Mais si tu m'as répondu d'une certaine façon, ton fantasme, ça serait d'arriver au roman, au vrai...
Ouais, peut-être. Mais d'avoir de l'imagination que je n'ai pas. Bon, donc, ça va être difficile. Mais peut-être que c'est ce fantasme. En même temps, j'ai l'impression que ça s'est déplacé aussi, que ce fantasme, je l'ai beaucoup moins qu'avant. C'est-à-dire que je m'accorde... de produire ce que je produis là, et puis le prochain sera différent. Et je suis un peu plus indulgente avec moi que je l'étais il y a 2 ans, il y a 5 ans.
Alors, ça va avec ce que tu as évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la question de la forme. Parce que peut-être que tu as eu l'impression, en tout cas dans échographie, c'est ce qui semble être dit, c'est que tu as fait de l'embryonnaire du fragment, du morceau. Ouais. Bon, on peut recoller tous les morceaux puis arriver à faire un texte. Il y a quelque chose un peu aussi de l'ordre du journal à travers tout ça, c'est-à-dire bon, mettre des morceaux ensemble, puis on ne sait pas si on a un corps ou si on n'a pas Frankenstein.
Non, tout à fait.
Mais en même temps, avec C'est quand le bonheur, il y a déjà une forme, même si les fragments sont plus longs, on est déjà plus dans une forme qui serait, en tout cas dans le fantasme, plus parfaite, plus totale, plus complète. Et alors dans Missing, je ne sais pas, mais je te demande, est-ce que la forme serait une espèce de consolation ou de réconciliation avec l'idée du roman? À l'inverse, est-ce que le fragment est toujours un moment triste ou un moment de...
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire? Pour toi, là, je te parle.
Oui, non, pour moi. Mais pour moi, le fragment n'est pas un moment triste.
Okay.
Je pense que c'est là le piège. C'est-à-dire que ce que j'aime dans le fragment, c'est la chute. J'aime que ça chute.
Okay.
Et donc, je suis comme quelqu'un qui jouit de la chute. Donc, c'est très difficile pour moi de me défaire du fragment parce que j'attends cette espèce d'apothéose à la fin du fragment qui fait la petite pirouette qui me permet de clore, de ficeler. J'adore ça. Et donc, dans Missing, j'ai échappé à ça parce que j'ai allongé les fragments, j'ai fait des mini-mini chapitres, disons. Et donc, il n'y a pas de chute, forcément, à la fin des fragments. Il y a quelque chose qui s'est un peu relâché. Est-ce que c'est la forme qui me sauve? Je ne sais pas si Missing est plus narratif, plus linéaire, mieux construit en tant que corps que les... Je trouve que C'est quand le bonheur est peut-être le mieux organisé en termes de récit par rapport à ça. Je crois que Missing peut décevoir. Si on veut une forme narrative plus traditionnelle, non, on ne la trouvera pas là. Mais pour moi, le travail qui a avancé, c'est cette idée du fragment, c'est-à-dire d'un fragment qui devient plus long et qui est plus dans ce désir de la chute, justement. Et bon, pour moi, c'est un travail. Moi, comme auteur, c'est important d'en arriver à ça.
Et pourtant, dans tes œuvres essayistiques, tu n'étais pas tellement dans le fragment.
Non.
Hein? C'est dans ta voix. C'est quand tu... c'est ta voix de...
Ouais.
Entre guillemets, d'auteur qui se veut fragmentaire.
Mais tu sais, je ne sais pas, c'est très, très prosaïque ce que je vais dire, mais j'ai commencé à écrire pendant les siestes, à 5 heures le matin avant qu'elle se lève, enfin bon, des trucs comme ça, en volant des bouts de temps. Et donc, en écrivant des petits bouts de texte, parce que c'est le seul temps que j'avais.
Mm-hmm.
Et c'est pas pour ramener le tout à un truc purement domestique, mais c'est vrai que je me suis demandé si la prédilection que j'avais pour cette forme n'était pas venue aussi de circonstances matérielles qui faisaient que j'avais pas beaucoup de temps pour écrire.
Mm-hmm.
Et dans le peu de temps, mais j'arrivais à faire des petits textes, et c'est devenu cette forme fragmentaire. Et là, le temps aidant, mes fragments deviennent plus longs. Donc, il y a aussi quelque chose de cet ordre-là.
Non, mais je suis d'accord, parce qu'à un moment donné, je demandais à Danielle Fournier pourquoi elle faisait de la poésie. C'était pas une accusation, mais presque. Et elle me disait ce qu'elle faisait de la poésie parce qu'elle avait pas le temps de faire du roman. Et je trouve que c'était bien répondu.
Exactement. Alors, moi, je fais du fragment parce que j'ai pas le temps de faire des longs romans fleuves.
Non, exactement.
Donc, quand j'étais très vieille, à la retraite, je fais des longs romans fleuves.
Mais elle me disait ça. Elle me dit, tu sais, parce que je lui disais, tu devrais peut-être faire du roman. Hein, je la taquinais. Et elle disait, mais tu sais, je peux pas parce que j'ai pas le temps. Je prends des notes et puis c'est tout ce que je peux écrire.
Mais c'est ça, mais c'est qu'en fait, cet acte de noter, c'est lié à la réalité de la vie. Faute de temps, ben on prend des notes et puis après, ça devient un fragment et puis après, ça devient un livre. Et c'est vrai que je fonctionne par puzzle. C'est comme un casse-tête. Donc, je peux avoir une série de fragments et C'est quand le bonheur, ça a été tout un travail beaucoup plus long que l'écriture des fragments eux-mêmes, de comment j'organise les fragments les uns par rapport aux autres et comment je trouve une forme. Donc, tous les fragments existaient indépendamment, puis après, ça a été sans arrêt pendant des semaines, dans quel ordre je les mets pour avoir un assemblage, un agencement qui donne un sens à tout ça. Et Missing, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que là, comme j'ai des plus longs fragments, ça se pose peut-être moins problème, ça bouge moins, et ça bouge certainement moins facilement, mais c'est toujours aussi cette espèce de truc de l'agencement, ouais.
Mm-hmm. Je te demandais de lire le début d'échographie parce que c'est en étant plein dans le sujet, donc
tu veux que je
tu lis peut-être jusqu'à tu lis longtemps, tu lis jusqu'à fragment.
Ok. Ouh là là. Ok. Au début, il n'y avait rien que des poussières de temps, un fantôme sans nom, une dentelle de racines comme un éventail de corail. Puis, tout doucement, au fil des jours et dans l'épaisseur du mystère, le corps s'est révélé maison, antre, foyer, sac, placard, aumônière, cage à oiseaux, petite poche de pantalon. Première image. Une petite zone d'ombre est apparue au creux du ventre cambuse. Une crevette a dit en souriant celle qui nommait ainsi cette présence et qui, dans quelques mois, assistera à l'ouverture. Socrate de mon corps, elle gouvernera la venue au monde d'un enfant qui ne peut encore rien deviner de ce qui l'attend, rien d'autre que les palpitations de mon cœur, les gargouillis de mon estomac, le bruit des voix. Lui qui n'est presque rien, voilà qu'il est déjà une image, un fruit, le mien. Écriture de l'écho. L'image est là. Elle traduit les ultrasons. Ce que je n'entends pas donne naissance à des contours, des volumes, des mouvements, des ombres, des traits sur l'écran, que seule une expertise en radiologie a le pouvoir de déchiffrer, comme le symbole d'une magie, d'occultes stigmates, un suaire dont il faut interpréter les marques. C'est une image réservée aux adeptes, et cela a à voir avec la foi, avec ce que l'amour nous permet aveuglément de voir. On me dit qu'il est là, que c'est lui, et j'y crois. J'écris les pattes d'oie, les tentacules, la mangrove. Le mystère vit, et chaque jour, j'espère, je le prie de continuer à m'habiter, à s'arroger encore un peu plus de moi, à m'étourdir de nausées et à me faire sauter le cœur, petit terroriste de mes viscères, que je sente un coup, deux coups, trois coups, comme un monstre à l'intérieur. Je suis possédée. On dit bien des choses sur cette chose qui pousse en moi. Les femmes parlent. Elles racontent l'histoire d'autres choses qu'elles ont tenues à l'intérieur d'elles, le premier mouvement, leur peur et leur désir de l'avortement. Pendant ce temps, je suis le cours des événements. La vie, le monde me sont contés, à la radio, à la télé, par des voix d'hommes qui ne savent rien de tout ça, et parfois moi aussi j'ai envie de me désister. Assise devant l'écran, j'oublie ce qui m'habite. Puis ça me revient, je me souviens qu'il est bien là, une valeur ajoutée, un tout autre tapis en moi que je ne vois pas. La porte était ouverte et il est entré. Tranquillement, il s'est installé. Il a laissé ses vêtements s'amonceler sur le plancher et a entrepris de creuser son trou. Doucement, il s'est incrusté, mollusque qui s'accroche à la pierre, qui se fossilise sédiment par sédiment à chaque soubresaut de la nausée. Chez certaines femmes, le corps méprend la grossesse pour une greffe et se défend, fabrique des anticorps, rejette l'embryon comme un étranger, comme ce qui ne lui appartient pas. Un simple rhume sème la pagaille au sein du système immunitaire. L'embryon, lui, tout intrus qu'il est, envahisseur, parasite, colonisateur, en vient néanmoins à être accueilli. Vertige, nausée, sueur représentent le tarif payé au poste frontière par le corps de la mère. Le désir se mesure à coups de malaise. Il faut vouloir laisser le visiteur nous habiter. Ça ne va pas de soi, mais ça se fait malgré soi. C'est plus fort que moi. Toute une correction morale entoure la grossesse. Il ne faut pas dire que le fœtus est l'intrus, que le ventre qui grossit rappelle l'invasion progressive d'une tumeur, que les nausées sont parfois vécues comme une punition. Et l'angoisse, la peur du départ tout autant que celle de l'arrivée. Il pourrait mourir, quelle horreur! Il va vivre, quel terrible bonheur! Le fragment, cette pensée restée à l'état d'avant la naissance. Le fragment, tétard, préhistoire.
Merci Martine. Ce qui me frappe, moi, dans ce passage, c'est toute cette idée dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de l'embryon, du tétard, de l'avant, du prêt, de tout ce qui n'est pas fini, de tout ce qui reste dans la forme et que mm-hmm. le fragment, d'une certaine façon, condense, parce que le fragment serait, malgré tout, même si tu aimes beaucoup la chute, il y a quelque chose de non complètement advenu dans le fragment. Ouais. Le fragment ne se comprend que par rapport à un ensemble. Ouais. Et je pense à ton rapport à l'enfance dans tous tes textes, mm-hmm. c'est-à-dire à quelque chose qui, l'enfance comme potentiel non advenu, qui n'advient que plus tard. On ne comprend le sens de l'enfance mm-hmm. que quand elle apparaît plus tard, quand mm-hmm. on la raconte, etc. Mm-hmm. Je trouve qu'il y a cette importance de l'enfance dans tout ce que tu racontes. Mm-hmm. Comment tu vois ça? Est-ce que parce que même dans C'est quand le bonheur, et tes personnages, ce sont deux enfants. Voilà, ça m'a fait beaucoup penser à
Du charme.
Oui, à l'hiver de force. Ouais. En même temps, il y a quelque chose aussi du loser dans, oui, oui, dans le personnage. Donc, oui,
oui. C'est un couple un peu attardé.
C'est ça.
C'est un couple
ça,
d'amis
c'est
attardés.
Ça, c'est
ils
ça,
sont encore dans la cour d'école.
Qui vont rester d'une certaine façon. Il y a quelque chose qui ne va pas advenir.
Oui,
d'eux.
Oui, tout à fait. Oui, oui, c'est un couple avorté. C'est, bon, ce sont des enfants éternels.
C'est
ouais.
ça.
Mm-hmm. Je ne sais pas si je peux répondre à ça. J'en suis pas très consciente, mais bon, tu le dis, je l'entends. Missing tourne autour de l'enfance, absolument. Est-ce qu'il y a quelque chose là de... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est, bon, ce sont des clichés, mais c'est ce qui me vient. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de pureté dans l'enfance que je garde, c'est-à-dire que je préserve, si on veut. Et en même temps, j'ai toujours envie d'enlever le vernis de pureté de l'enfance, c'est-à-dire de montrer ce qu'il y a derrière, de montrer ce qu'il y a de terrible, de terrifiant, d'horrible, de noir. Et je, bon, c'est pas présent dans ces camps de bonheur. Je pense que là, j'ai vraiment joué sur ce couple, mon trait du charmien, de deux enfants un peu idylliques. On est resté là-dedans. Dans Missing, je vais derrière, c'est-à-dire que j'essaie d'investir, d'aller révéler ce qui est troublant dans l'enfance. Pas tant pour montrer des enfants cruels ou c'est pas cette dimension-là, mais pour peut-être déterrer ce que la mémoire a un peu enterré. Moi, je peux dire non. Pour arriver à révéler, en creusant les souvenirs, ce qui est l'espèce de tranchant de l'enfance. Ce qui reste coupant, ce qui reste un peu inacceptable, un peu honteux aussi, de ce qu'on s'admet pas, de ce qu'on préfère oublier de cette enfance. Donc, c'est vrai que je suis... Peut-être, bon, c'est sûrement ça le fragment aussi. Hein, c'est comme tu dis, c'est une forme avortée. C'est-à-dire, c'est une forme qui n'aboutit pas. Et peut-être que tout mon rapport à l'enfance, il est là, dans quelque chose qui est à la fois complet et qui échappe tout le temps. Pour moi, l'enfant est un personnage... bon, hyper riche parce que j'essaie de l'attraper, mais en même temps, c'est vrai que ce que j'aime chez lui, enfin, comme personnage, comme figure, c'est que je n'y arriverai jamais. Il y a une richesse dans l'imaginaire que j'associe à l'enfance qui fait que je ne peux que m'en approcher. Et je parle de ma propre enfance comme de ma fille ou de bon, d'autres personnes qui me permettent de figurer ce rapport-là. Ouais, je ne sais pas si j'ai répondu.
Oui, tu y réponds. Aussi, je pense aussi à d'où approcher. La question que tu poses, c'est d'où approcher l'enfance aussi.
Ouais,
alors,
tout à fait.
Je pense qu'il y a une forme qui te permet d'approcher. C'est
oui,
le
oui,
fragment
oui.
qui est une, ouais. presque une forme mimétique de ce que tu
oui, oui,
veux.
Oui.
Mais
qui est donnant du jeu aussi, parce que le fragment, c'est le jeu, c'est jongler, c'est très ludique le fragment. On a, bon, je disais la chute, et c'est l'humour. Je trouve de l'humour dans le fragment. Je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de blagues. Je ne suis pas quelqu'un de très drôle, mais dans le fragment, j'arrive à jouer avec les mots. C'est une forme qui me permet de trouver de l'humour dans l'écriture et donc de trouver du ludisme. Ouais.
Mais le fragment est lié peut-être à une naissance ou à un non-advenu, mais qui permet la naissance, mais aussi le fragment est lié au deuil. C'est-à-dire, tu parles de cette chute.
Absolument.
Le fragment est très vite fini.
Ouais.
Et je pense beaucoup à ton écriture, particulièrement dans l'essai. Alors là, c'est encore plus manifeste. Mais même dans Échographie, c'est très présent. Et même dans C'est quand le bonheur, parce qu'on a l'impression que c'est quand même faire le deuil de quelqu'un dans ce texte-là.
C'est ça. Ouais.
Donc, quelle est la part du deuil dans l'écriture? Et je pense que c'est complètement lié à la naissance.
Oui, absolument. Je pense que... Bon, si on peut être fier de quelque chose quand on écrit, dans Échographie, ce que j'ai voulu faire, c'est d'aller à la rencontre de ce qui, dans la maternité, est inextricablement lié à l'expérience de la mort, donc du deuil. Et qu'on, par exemple, quand on parle de travail, de la mise au monde, je le relie directement à un travail de deuil. C'est-à-dire, c'est du même ordre. Et j'ai voulu aller creuser ce sillon-là, aller voir ce que ça veut dire et comment cette folie de la maternité, elle est une sorte... Bon, je l'appelle comme ça. Ça me concerne moi, mais cette folie de la maternité, elle est folle parce qu'elle est reliée à la mort. Et que c'est peut-être, à mon avis, quelque chose qu'on ne dit pas, ou qu'on ne dit pas assez, que la mère, que la femme enceinte, que la femme qui vient d'accoucher, que la mère tout court, est éminemment liée à une expérience du deuil permanent. Donc, c'est sûr qu'ils sont étroitement liés. Dans Histoire de fantômes, ben, je suis allée creuser ça, clairement. Enfin, des textes de femmes qui avaient perdu un enfant, qui s'étaient fait avorter, bon, etc. Mais oui, ils sont indémaillables. L'enfance et le deuil.
Et dans le prochain livre, ça sera comment?
Encore pire, je crois.
Oui?
Oui. Oui, encore pire. Dans le prochain livre, c'est une série de disparitions. Et donc, c'est un peu comme si j'avais voulu prendre la vie d'une fille qui, bon, dans dans le meilleur des cas, et moi, où ce que j'étais, où ce que j'ai été, et de voir comment, en refaisant le parcours, bon, dans le passé, en réinvestissant les lieux qui ont été ceux qui ont été investis à l'époque, je pouvais aller repérer comme en faisant le parcours du petit pousset, mais à l'envers, mm-hmm. hein, aller ramasser tous les cailloux de la disparition, de l'absence qui avait été semée et qui avait été semée par la vie. Mm-hmm. Et donc, c'est, je pense, enfin, j'espère que dans ce texte-là, il y a une espèce de conjonction entre le plaisir de l'enfance, le jeu, l'innocence, bon, tout ce qu'on associe à l'enfance et les yeux ouverts sur une mort, mais constante. Ouais. Il y a une des phrases où je dis « Dans ma vie, il y avait le cancer, les champignons atomiques et les petites filles disparues. Mm-hmm. » Et c'est ça. C'était, l'enfance est reliée à ces topoïs, si on veut. Donc, c'est ce rapport-là que je suis allée creuser.
Et la forme, tu nous dis, elle est beaucoup moins fragmentaire. Alors, elle va être beaucoup moins fragmentaire.
Oui, les fragments sont plus longs. Oui.
Tout à l'heure, tu parlais du fait que tu reprenais tes textes en essayant d'agencer les fragments, que le travail est un travail de structure, en mm-hmm. fait. Puisqu'on travaille un petit peu sur l'écho ce soir, je me demandais quelle part tu fais à ce travail de réécriture, au travail de réécriture mm-hmm.
Dans la pratique, tu
oui,
veux dire.
Dans la pratique.
C'est énorme. C'est énorme. C'est même ouais, symptomatique. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va bouger, mais en tout cas, pour moi, l'idée d'un premier jet est comme inimaginable. C'est-à-dire que je réécris et il y a un moment où je me dis, bon, là, ça suffit. Je dois me faire violence pour arrêter, mais pas à la Flaubert. Enfin, j'aime pas non plus tous ces clichés, mais c'est vrai qu'il s'agit pour moi de trouver la justesse et de l'agencement des fragments et de la musicalité de la phrase. Et ça devient un travail très minutieux que j'ai du mal à lâcher. Mm-hmm. Et c'est le plus long. Je dirais que ça, c'est ce qu'il y a de plus long, parce que je peux vite arriver à une première version et après, c'est sans arrêt une espèce de retravail pour arriver à un truc qui est le plus proche de ce que j'ai en tête. Et même ça, c'est faux. Je ne sais pas si j'ai en tête quelque chose, mais je sais quand j'arrive à quelque chose que c'est juste. Et donc, j'attends de sentir cette justesse.
Ouais. Tu lâches prise quand tu...
Quand j'arrive au plus proche de ça, oui. Et là, je peux lâcher prise sur quelques détails, oui.
Et cette justesse-là, c'est une justesse de... Parce que tout à l'heure, tu parlais de la voix, c'est-à-dire du rythme. Ouais. Est-ce que c'est une justesse auditive que tu... Ou c'est...
Je pense que oui. Oui, je pense que, enfin, en gros, là, je dirais que c'est ça. C'est sûr que sur l'ampleur, enfin, sur l'ampleur d'un roman, c'est difficile de dire qu'il s'agit que de Louis. Je suis pas sûre que moi, je sache très clairement ce à quoi je veux en venir quand j'ai écrit. Je veux dire, il faut que je l'ai écrit au complet pour avoir une idée de ce que je voulais faire et après, je dois recommencer. Mm-hmm. Mais bon, pas recommencer à zéro, mais bien retravailler, réagencer. Bon. Donc ça, c'est une étape plus globale, mais c'est vrai que la justesse, elle est dans ce que j'entends. Mm-hmm. Est-ce que ça sonne juste? Et quand je relis un de mes livres, il y a cette phrase là c'était pas tout à fait ça. Donc je suis très je lâche pas facilement là-dessus. Ouais. Mmh.
Tout à l'heure aussi on a parlé du fait que tu que tu étais pieuse, voleuse, etc. Comment c'est une question un petit peu pour rire, mais comment tu réagirais si on te volait,
si on te pillait,
ou quand on va te piller,
parce que ça va bientôt arriver. Donc, je sais pas si c'est intéressant.
Donc, mais je te demande, comment quel est ton rapport à la propriété, en fait, de ta rapport à tes textes, parce que justement, si tu les lâches pas beaucoup, il y a un rapport quand même comme ça, un peu possessif aux textes.
Mais je sais pas, parce qu'en même temps, ce que je disais tout à l'heure est tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont publiés, je les oublie. Mm-hmm. Donc, ils ont une existence à l'extérieur de moi, j'arrive pas à rester attachée à eux. Mm-hmm. Et quand on me cite ou on me dit « Ah, je sais pas », c'est comme si on parlait pas de moi. Donc, j'ai pas l'impression de me sentir très propriétaire de mes œuvres et je travaille très facilement avec un éditeur, par exemple, qui va me dire « Bon, ça, je pense qu'il faut couper » ou « Là-dessus, je suis pas d'accord » ou « Je m'acharne pas, je tiens pas tant que ça ». Ce à quoi je tiens, c'est à cette musicalité. C'est-à-dire que ça, c'est comme si je sais que moi, je sais ce qui est juste ou pas. Et là-dessus, je ne peux pas tellement lâcher. Mais sur le contenu, sur des longueurs, mm-hmm. ou bon, tout ça, je pense que je suis une auteure assez facile. C'est-à-dire, mm-hmm. je pense qu'on peut vite facilement négocier avec moi. Donc, je ne pense pas être si propriétaire de mon travail. De ma vie, je ne sais pas. Je ne sais pas comment je réagirais si on en venait à piller... Enfin, oui. Moi, je ne sais pas.
Donc c'est pas une réflexion générale que tu as sur la propre, comment dire, tu,
ouais.
c'est un travail que tu fais, mais que, t'as pas une position face ouais. au privé en général, que le privé appartiendrait à.
Ben oui, je peux l'avoir cette position, mais enfin, je pense que je l'ai, à dire que le privé appartient à tout le monde, oui, que tout est permis, oui. Est-ce que si ça m'arrivait à moi, je réagirais bien? Je sais pas. Est-ce que je comprends que les gens réagissent mal? Oui, je le comprends. Je pense que c'est violent. Est-ce que ça doit empêcher les auteurs de faire ce qu'ils font? Non. Mais oui, c'est ça. Mais j'ai pas de réponse par rapport à moi. Je pense que je lâcherais là-dessus, que ça me toucherait pas tant que ça. Mais c'est facile à dire tant qu'on ne l'a pas vécu, j'imagine.
Mais ce qui m'intéresse dans ce que tu dis, c'est d'une part, c'est que tu tiennes d'une part à cette idée que tu n'as pas d'imagination, que tu n'as pas d'inventivité, que tu piques et tout ça. Et puis que par ailleurs, il y a dans tout ce que tu dis depuis le début, le désir d'une imagination. Ouais. Hein, c'est comme si... Mm-hmm. Moi, j'ai envie de te dire, mais tu n'as pas besoin d'avoir d'imagination. Non, tu peux continuer à ton travail de piller. Mais en même temps, j'ai l'impression mm-hmm. que c'est cette tension-là qui dirige ton ouais. travail, c'est-à-dire à la fois, comment dire, un rapport au réel très fort, mm-hmm. et puis l'impression que le réel est une déception et qu'il faudrait ne pas être seulement dans le réel.
Ouais.
Hein,
mais en fait, peut-être que j'ai juste envie de me lâcher, moi. C'est-à-dire, c'est peut-être pas tant avoir de l'imagination d'un point de vue très cliché, du style inventer des trucs et mm-hmm. tout. Bon, je pense que j'y arriverai pas. Mm-hmm. Ça, j'ai fait mon deuil de ça, j'en suis pas capable. Donc, je veux bien continuer à voler, à piller, à faire des listes d'épicerie, de tout ce que les gens me disent. Ça me convient tout à fait. Mais je pense que j'ai envie de me lâcher, moi. Mm-hmm. C'est-à-dire que mon rapport à ma propre vie ou à... je sais pas, mon imaginaire intérieur, si mm-hmm. on veut, qu'il y ait plus d'espace, qu'il y ait une zone tampon plus large mm-hmm. entre l'écriture et ça. Je pense que c'est ça l'imagination, mm-hmm. en fait.
Mais est-ce que tu prends des notes quand tu rencontres les gens?
Non. Des fois, mais peu, mais je le dis
non,
pas.
Non, mais vraiment, est-ce que tu...
Mais vraiment, des fois, je le fais. Mais bon, en général, c'est les gens proches de moi. Il ne faut pas s'inquiéter.
Non, on n'est pas inquiète.
Je ne suis pas sophicale.
Non, mais je pense même à Régine Robin qui note tout. C'est-à-dire ouais. qu'on passe une soirée avec elle et elle va noter... les conneries que vous dites.
Oui, c'est ça.
Où elle va noter ce qu'elle mange pour le repas.
Ah oui,
elle
a son journal. Non, ça m'intéresse pas.
Elle a son journal ouais. après. Elle le renierait ouais. assez longtemps.
Oui,
que
oui.
Disais. Mais c'est... donc, elle a un carnet, ouais. elle a le journal, elle a plusieurs mécanismes
oui.
de notes.
Ouais.
C'est pas ça, toi.
Oui. Non, pas du tout.
Donc, c'est une copie déformée, toujours. Tu disais de traduction tout à l'heure. C'est pas une copie... elle aussi, mais je veux dire, elle est quand ouais. même... Elle a absolument besoin de la note.
Mais ça dépend, parce que dans ces camps de bonheur, j'ai vraiment littéralement fait ça. C'est-à-dire, j'ai noté et j'ai gardé texto des trucs qu'on m'avait dit.
Mais tu as noté
j'ai joué avec
à
ça.
Ce moment-là ou tu as noté par la mémoire?
Les deux. Il y a des trucs que j'ai notés sur le coup et d'autres qui me sont revenus par la mémoire ou par la répétition. Parce que c'est un peu... bon, il n'y a rien de très original. C'est-à-dire, chacun a des phrases qu'il répète tout le temps, des souvenirs qu'il raconte toujours. Bon, quand on fréquente quelqu'un très longtemps, ces clichés de la personne, on les garde en tête. Donc, c'est un peu ce travail-là que j'ai fait. J'allais repêcher tous les clichés de cet individu et j'en ai fait un livre. J'ai transposé pour l'écriture. Mais à la base, il y avait une espèce de données, de matière brute, si on veut, qui, ben oui, que j'avais colligé.
Oui, mais au début... Je ne savais pas que tu étais au début.
Non, parce c'est que ça, il y a 20 ans.
C'est
oui,
une
non.
longue période, mais tu colligeais ouais. déjà.
Non, dans ma tête. Mais c'est de la répétition, plus qu'autre chose. Ce qui est... mon Dieu, on est dans la cuisine, mais...
C'est important.
Oui, mais ce qui est ancien, et là, parce que je l'ai gardé en mémoire, parce que ça a été répété sur 20 ans.
OK.
Les aspects plus présents, plus proches du moment de l'écriture, là, j'écrivais vraiment. Je prenais vraiment des notes.
Et là, la personne ne le savait pas?
Non, elle savait.
OK.
Oui. Oui, non, là, j'étais... Tout était out in the open.
Donc, il y a un aspect vraiment de notation de ton...
Des fois, oui. Oui, et bien, il y a un plaisir là-dedans aussi. Il y a un plaisir à noter des phrases qui sont particulièrement drôles ou la forme est particulièrement intéressante et là, je les garde comme ça. Et j'aime bien les avoir gardées en note, oui.
Est-ce que tu as un journal?
Non.
Non, donc c'est vraiment le fragment, c'est... le morceau, le cadavre esquis que tu mets,
que tu
raboutes.
Oui, j'ai aucun intérêt pour le journal. Vraiment, échographie donne l'impression d'un journal parce que, bon, encore là, c'est une situation domestique. J'écrivais tous les jours dans le peu de temps que j'avais. Mm-hmm. Et comme je suivais la croissance d'un enfant, bien évidemment, il y a une linéarité. Donc, mm-hmm. on pense que c'est un journal. Mais ce n'était pas un journal du tout. J'écrivais vraiment avec en tête un projet littéraire qui allait être fait vite. J'ai eu ça devant moi. Donc, il s'est fait comme ça en donnant l'impression que c'est un journal. Mais je ne tiens pas de journal. Vraiment, c'est le dernier de mes... c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Donc, ce qui est paradoxal, parce que je serais quand même quelqu'un du journal, si on veut, avec ce genre de travail, mais pas du tout.
Mais pas non. nécessairement, mais, parce que ouais. je te vois plutôt comme quelqu'un de la note, c'est-à-dire le journal déjà met en scène un récit, une linéarité, ouais. Une petite, mais bon...
Oui, oui, qui est là tous les jours, une régularité aussi, non, c'est
alors
pas mon
que
cas.
Si tu aimes le fragment et la chute, le journal n'est pas toujours dans pas la chute ça. Ou non. alors l'absence.
Oui, mais c'est aussi que j'écris pour un projet, c'est-à-dire j'ai un projet littéraire en tête, et donc ces notes ou ce que je garde en... Ah, il y a un but, je fais pas ça juste comme ça, j'attrape dans la rue je prends pas des notes qui vont peut-être un jour me servir. Moi, je fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire, j'ai un projet, comme en ce moment je travaille sur un monologue, j'ai en gros une structure et je vais piger chez des gens des paroles qui vont me permettre d'alimenter ce monologue. Mais j'ai ce projet à la base. Donc, c'est pas comme si, mon Dieu, j'ai une conversation, quelqu'un me dit une phrase intéressante, je la note parce que peut-être qu'un jour elle pourra me servir. Non, pas du tout.
C'est-à-dire que pendant un moment donné, tu mets toutes tes énergies sur
ça. Oui,
sur
c'est ça. Ouais. Ouais. Et là, tout peut m'être utile, c'est sûr.
Elle est dangereuse, hein?
Ah, c'est terrible, terrible.
Il y a peut-être une dernière chose avant de finir, que tu nous parles peut-être aussi plus de Missing, mais ton premier essai, Femme psychiatrisée, Femme rebelle, tu as beaucoup parlé de la folie. Mm. Hein? Et puis, on a l'impression, étrangement, que la folie s'est retirée de tes textes. Hein? Elle est un peu présente, mais ce n'est pas la question de la folie qui va dominer ton travail. Pourquoi ce passage par la folie? Mm-hmm. Que reste-t-il de la folie à travers ce que tu fais?
Ouais, grande question. Je ne sais pas si... Bon, quand je refais le parcours, là, je vais te dire un truc que je dis. Donc, c'est un peu un cliché de moi. Mais ce que j'ai fait dans le travail sur la folie concernait moins la folie que le témoignage. Mm-hmm. Donc, c'est ça qui est resté. Donc, c'est toujours le rapport au réel, comment on voit les choses, comment on fait apparaître, comment on dit la vérité sur un événement. Bon, c'est plutôt ça qui m'est resté. Mais au départ, si je suis honnête, c'est la folie qui m'interpellait. Et donc, le discours fou. Comment on comprend... un discours qui est incompréhensible. C'est l'intérêt de la thèse, donc, dont est issu l'essai, c'était ça au départ. C'est pas devenu ça, dans les faits. Mais au départ, c'était ça. C'était comment on lit un écrit fou, un écrit de quelqu'un qui est fou, et donc dont la langue n'est pas nette, la structure, on n'a pas de point de repère. Comment on peut lire quelque chose qui est aussi aliéné par rapport à nos points de référence?
Mais c'est parce que moi, je vais te dire pourquoi j'ai associé. J'ai associé, c'est parce que tu as parlé du monologue. Et je me suis dit, est-ce que ce n'est pas un retour à la folie, le monologue? C'est-à-dire que, tu vois, c'est-à-dire c'est un discours qui, nécessairement, quand on fait un monologue, qui se met à délirer, qui se croit complètement autonome,
ben voilà.
qui se croit complètement
fermé. Tout à fait,
fermé.
C'est ça. Mais c'est la forme de l'enfermement.
Oui.
Bon, pareil, je pense que le fragment est une forme de l'enfermement. C'est-à-dire, si j'aime la chute, j'aime que ce soit bien ficelé, c'est comme un petit tombeau.
Oui.
Hein? C'est donc, le rapport au deuil, tout ça est là. Et c'est vrai que le monologue, c'est comme un long fragment. Mais qui va porter sur l'enfermement. Donc, c'est cette forme-là. Et c'est clairement lié à la folie, t'as raison.
Ouais, c'est simplement fait. Que je me dis que peut-être... Parce que je me disais, en faisant ce travail-là, je me suis dit, mais que reste-t-il de ça? Mais peut-être que tu es en train de le faire maintenant.
Oui, c'est possible. Bon, la folie, elle est là. Pour moi, Échographie est un livre sur la folie maternelle. Je pense que c'est ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est peut-être plus la folie ordinaire. Le personnage de ses grandes bonheurs, le héros masculin, bon, il y a une sorte de folie aussi qui traverse tout ça, une folie douce, la folie qu'on reconnaît chez plein de gens. Mais c'est là partout aussi. Ouais, je pense que ça reste un de mes points d'intérêt. C'est toujours aller investiguer les zones d'ombre chez les gens. C'est ça qui me plaît.
Est-ce que tu imagines, ou peut-être tu l'as déjà fait, faire une voix narrative au masculin? Est-ce que la voix que tu cherches, elle est nécessairement
féminine,
même si elle serait au elle ou
Ben, écoute, jusqu'à maintenant, non, j'ai pas imaginé de voix au masculin. Je pense que j'ai flirté avec l'idée quand j'ai fait C'est quand le bonheur, et puis finalement, j'ai laissé tomber assez rapidement.
Mais on entend sa voix, mais filtrée par la narration.
Oui, qui est une narration de fille, oui. Mm-hmm. Mais non, jusqu'à maintenant, non. Mais peut-être.
Mais ni dans Missing, ni dans le monologue non. Que tu es en train de...
Non, ça reste femme, ouais.
Tu veux nous parler un petit peu avant qu'on finisse un peu de Missing?
Ben, qu'est-ce que je peux en dire? Peut-être...
Donc, ça devrait normalement paraître
en septembre. Ouais. J'en ai apporté un extrait que je peux lire si vous voulez.
Oui, tu veux.
Mais juste parce que c'est difficile de parler d'un texte qu'on est en train de travailler. Donc, je me sens, toute la journée, je me disais, il faut que je me trouve un pitch. Mais je n'ai pas trouvé de pitch. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est sur l'absence, comme le dit le titre, Missing, et que c'est un peu construit sur le principe de la fausse piste. C'est-à-dire que je donne l'impression que tout ce roman porte sur comment on retrace, comme je le disais tout à l'heure, tout ce qui est de l'ordre de l'absence dans la vie d'une narratrice, en particulier les absences ou les disparitions de filles. Donc, le roman commence sur une blague. Qu'est-ce que c'est une fille? Quelqu'un qui ne le restera pas longtemps. Et tout le roman est bâti là-dessus. Et en l'écrivant, j'étais très touchée, très obsédée par Cédric Aprovencher, Maddie McCann, tous ces cas d'enfants disparus, en particulier de petites filles disparues. Et à partir de ces faits divers, j'ai créé ce roman qui bascule entre les faits divers et des récits d'enfance où je repère toutes ces traces de disparition qui étaient là, mais qu'on ne voyait pas forcément. Donc, c'est un peu ce travail-là. Mais c'est une série de fausses pistes parce qu'il y a une autre absence qui est peut-être plus profonde que celle-là. Mm-hmm. Et tout le roman tourne un peu comme un vautour autour d'une proie pour arriver à tomber sur cette absence profonde qui serait le sens du roman. Donc, en gros, c'est ça.
Tu nous lis un extrait?
Ouais, je peux vous lire un extrait. Donc, c'est quelque part au début. Toute mon enfance avait été bercée par des histoires de petites filles disparues. Il était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu'on eût su voir. On racontait ces histoires comme s'il s'agissait d'un nouveau phénomène, comme si, jusqu'à ce moment-là, les petites filles étaient restées sagement chez elles, qu'on ne les avait jamais perdues de vue. On soupirait que les temps avaient changé, le monde était soudainement devenu mauvais, puisqu'on s'en prenait même aux petites filles désormais. On parlait de ça comme d'une chose qui venait d'arriver pour la première fois. C'était l'époque des José, Chantal, Nathalie, Manon, Christine. Je n'entendais parler que de ça. Jamais des méchants, des garçons, des gros cons, seulement des petites filles qui, un jour, sans qu'on s'y attende parce que personne n'y avait pensé, disparaissent de la circulation. On disait que ça n'arriverait jamais chez nous, jamais, il ne fallait pas s'inquiéter. Depuis le temps, les familles installées dans leur maison en aluminium depuis 2 ou 3 générations, sur ça on peut toujours compter. Mon Indochine était un village où on était fiers de dire que tout le monde connaissait tout le monde. C'était un village comme tous les villages, comme tous les quartiers, comme toutes les poches de gens qui se surveillent et disent « s'aimer ». C'était comme ça, et parfois c'était pire. Il fallait travailler fort pour protéger un secret, il fallait être adroit, mesquin, il y avait de quoi s'occuper. C'était quelque chose comme échafauder tranquillement une trame de roman policier, et après, pendant des semaines, on s'en nourrissait. C'était le genre de village qu'il valait mieux oublier, mais même quand on s'y essayait, c'était impossible d'y arriver. On était hanté par le stand à hot dog de la rue principale et la piscine du terrain de camping plantée près de la sortie de l'autoroute et que les villageois envahissaient dès les premiers jours de l'été. En juillet, les familles quittaient le quadrilatère central du village pour s'installer, 1 kilomètre plus loin, à l'intérieur du camp Kitawa, collées les unes contre les autres dans des tentes ou des roulottes pour y passer les semaines de vacances et bien sûr tous les week-ends, du vendredi soir au dimanche. Le camping s'étendait en bordure de la forêt La Rose. Les riches se payaient des terrains près de la piscine et de la route. Les pauvres plantaient leurs tentes au creux de la forêt, dans les nids d'épines laissés par les grands pins. Ça sentait l'humus et la fougère, et après la pluie, quand le soleil faisait fumer le sol, une vague odeur d'excréments flottait dans l'air, avec en dessous celle du chlore de la piscine et le vinaigre des petits sacs de chips yum yum vendus à l'entrée, dans la guérite, avec les forfaits tant de voitures barbecue et la hubba baba à grosse ballonne. Quand la chance nous souriait, le sac de chips contenait un coupon qui donnait droit à un deuxième sac gratuit, qui lui aussi contenait un coupon qui donnait un autre sac gratuit, et ainsi de suite jusqu'à ce que le ventre gonfle et le soleil tombe. Les chips étaient minces et fines et grasses. Sous un petit coup de dent, elles s'effritaient dans la bouche, le vinaigre piquait la langue et faisait pétiller l'intérieur des joues. Au fil des jours d'été et des traitements au chlore, la peau du nez tombait en lambeaux, vieille peau usée et arrachée sous laquelle apparaissait le rose pâle de la chair tendre. On oubliait la crème solaire et le chapeau. Pour la durée de l'été, les enfants se transformaient en crustacés plongés pattes battantes dans l'eau bouillante. Moi, taché, mon visage avait l'allure des vieilles voitures aux portes trouées par des abcès rouillés.
Merci. Je viens de penser à quelque chose. Quand tu as dit le titre Missing, j'ai quelque chose que je n'ai pas évoqué, que j'aurais peut-être dû évoquer d'emblée avec toi. C'est la question de l'anglais dans ton ouais. écriture, parce qu'en parlant d'écho, je sais, ça c'est un fait biographique que tu m'as raconté, que tu as déjà tu as écrit des romans en anglais. mais que tu t'es demandé si ça serait pas l'anglais ta langue, et que finalement le français a été comme une double langue. Et bon, c'est juste parce que le titre qui me dit ben, ça, parce qu'il y a un reste de cet anglais là quand tu décris aussi
L'entend dans le
Donc je me demande quelle a été cette capacité de quitter une langue aussi ou d'être dans les deux langues et puis d'un seul coup d'en choisir une.
Ouais, ben c'est peut-être pour ça que j'ai dit éco-traduction.
Oui, c'est ça, exactement.
Ouais, tout à fait.
C'est pour ça que j'aurais dû allumer plus vite.
Je trouve que c'est bien qu'on finisse là-dessus, parce que Missing, en fait, est la traduction en français. C'est pas juste, c'est pas vrai du tout. J'ai pas du tout traduit ce roman en anglais en français. Mais quand j'y repense, j'ai réécrit en français un roman que j'avais écrit en anglais. Ça a rien à voir. C'est pas du tout une traduction au sens propre, parce que j'ai jamais relu ce texte en anglais, mais il y a un processus qui s'est opéré. Donc c'est comme si Missing venait signer le transfert de l'anglais au français, parce que j'écris plus du tout en anglais, pas de fiction pour le moins. Donc il y a l'anglais m'a permis d'arriver à l'écriture, et en même temps, mais là je sens que je l'ai quitté, c'est-à-dire que j'ai plus ce rapport-là à la langue anglaise. Et, bon. Si j'étais restée aux États-Unis, peut-être qu'il serait resté aussi. Mm-hmm. Mais étant ici, je pense que là, j'ai accepté que j'étais francophone. Peut-être qu'on peut le dire comme ça.
Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ce passage par l'anglais de façon biographique dans ta vie?
Parce que j'ai grandi dans dans une famille francophone, mais dans un milieu anglophone, que le rapport à la langue a toujours été compliqué, et que mon rapport à la langue française était compliqué, sans que je m'en rende compte, en fait, à l'époque. Mais pendant longtemps, j'ai pas compris pourquoi je balbutiais autant, pourquoi j'avais du mal à parler quand je parlais français. Et il y a quelque chose que je ne m'accordais pas. Et bon, les gens sont toujours étonnés, je suis franco-ontarienne, je suis pas québécoise. Enfin, à l'origine. Et étant franco-ontarienne, on a un rapport différent à la langue française, je pense, même si mes parents étaient québécois, bon, tout ça. Et après, je suis passée par les États-Unis, l'Angleterre, donc je suis restée dans un univers anglophone, et je pense que l'anglais m'a permis une liberté par rapport au langage, c'est-à-dire que j'ai trouvé dans l'anglais une force qu'après j'ai pu réimporter, si on veut, dans la langue française. Mais c'est comme si il y avait eu, une honte très forte, parce que parler français en Ontario, anglais, c'est honteux. Enfin, moi j'en ai fait l'expérience comme d'une honte. Et après, parler québécois dans des milieux où c'est le français métropolitain qui prévaut, comme c'est le cas aux États-Unis ou en Angleterre, c'est une autre honte. Donc ce rapport à la langue française était entaché de honte. Et peut-être qu'en revenant ici, puis en refaisant le parcours à l'envers, si on veut, là, j'ai finalement retrouvé ma langue.
Et puisque tu dis, en fait, dans le fond, tu n'arrêtes pas de réécrire, parce que tu es toujours dans la reprise, dans ce texte que tu n'as pas publié, que tu as écrit en anglais.
Et qui refait écho, c'est sûr. Ben, d'où mon intérêt pour des gens comme Ernaud, Duras, Guibert, Barthes, qui eux-mêmes sont dans des processus d'écriture et de réécriture, de plagiat de soi, de découpage, redécoupage, copier-coller de leur œuvre. Mais je suis fascinée par ça. Et je pense ça aussi que c'est un... Bon, il n'y a pas d'interdit là-dedans, c'est comme la question sur le plagiat. On n'a pas à toujours se réinventer. En fait, on fait du copier-coller avec nous-mêmes. Et donc, on se reconfigure, on se réorganise. Et l'écriture est un lieu parfait pour explorer ça.
Et dans ce livre, Missing, c'est le titre qui a été trouvé d'abord ou c'est... ou c'est le texte et puis après le titre?
Non, le titre est venu à mi-chemin. Il y a eu différents titres. Mais quand j'ai trouvé celui-là, j'ai compris de quoi il allait s'agir. Donc, je pense que pour moi, le titre, même si ce n'est pas le titre qui va être sur la page couverture, mais il faut qu'il y ait un titre de travail qui donne son sens à l'écriture. Et Missing est devenu le titre de travail.
Ah, tu travailles toujours avec un titre
qui fait écho. Et qui fait, qui est l'ultime fragment, c'est-à-dire qui vient résumer, contenir en lui tout ce qui va faire partie des 200 pages qui vont suivre.
Ouais. Peut-être que je vais m'arrêter là, moi, de poser les questions. On va laisser la place à vos voix. Si vous voulez parler, il faudrait que peut-être que vous parliez dans le micro parce qu'on est en train d'enregistrer tout ce qui est dit. Donc, est-ce que vous avez des questions? En général, ça prend 2-3 minutes avant que les gens se dégèlent un peu.
Avec un micro, c'est différent.
Bon. Il faut se lever, il faut y aller.
Il faut apparaître.
Il y a toute une gymnastique qui est difficile à 8 heures du soir, mais...
Ça m'a fasciné ce que tu as dit par rapport, par exemple, à le manque d'imagination. Il y a bien des façons de composer avec ça. Il y a Jacques Poulin, par exemple, qui réécrit le même roman 12 fois. Bernard, qui a le même film à l'infini. C'est une façon, hein, comme une autre. Mais c'est pas là-dessus, en fait, que j'aimerais te questionner, Martine, sur la question du plagiat qui m'intéresse beaucoup. Hein. Mm-hmm. Je donne un cours sur parodie, pastiche, travestissement littéraire, mm-hmm. et le plagiat n'est jamais très loin. Et je suis de ceux qui trouvent que c'est très intéressant, en fait, le plagiat, mm-hmm. et qu'il ne faut pas le pénaliser, à moins qu'il soit con. Il y a des plagiats cons, comme il y a des travaux qui sont censés être originaux, qui sont cons. Ouais. Bon, mais ça l'arrive. Hein. Bon.
Surtout.
Mais par contre, peut-être l'aspect que j'aimerais revenir, est-ce que le plagiat évacue nécessairement la question de l'originalité? Hier, j'écoutais deux œuvres de musique classique assez intéressantes, assez fascinantes. Un ballet, Don Juan de Gluck, et puis une symphonie de Boccherini, donc un Allemand et un Italien, écrit à peut-être 10-20 ans d'intervalle, on ne sait pas. Un ballet et puis une symphonie appelée la Casa del Diavolo. Le final est identique. Identique. C'est-à-dire, évidemment, ils vont faire autre chose avec chacun, mais c'est toute évidence, quelqu'un a plagié l'autre. Les musicologues, évidemment, veulent trouver le coupable. Ah, c'est oui, qui a plagié qui? Ouais. Est-ce que c'est Boccherini qui a plagié Gluck? Est-ce que c'est Gluck qui a plagié Boccherini? On n'arrive pas à savoir parce que si on connaît bien la date de Gluck, 1761, on ne sait pas la date du manuscrit de Boccherini. Ils ont sur la même époque. À la limite, là, je dirais, on s'en fout. Mm-hmm. Hein? Les deux, ça fonctionne. Les deux, c'est intéressant ce qu'ils en font. Ils en font deux usages différents. Et à la limite, si, comme on le pense, c'est Boccherini qui a plagié Gluck, ce qui n'est pas encore certain, mais si c'est le cas, selon moi, ce que fait Boccherini est vachement plus intéressant que Gluck.
Ben oui, c'est ça.
Alors donc, c'est un plagiat. Ça serait lui qui serait le plagiaire. On aurait notre coupable. Et pourtant, dans son plagiat, il fait quelque chose de plus génial, de plus original que le modèle qu'il aurait plagié. Donc, ma question toute simple, c'est même si on fait du plagiat consciemment, ou encore peut-être mieux, inconsciemment, est-ce qu'on ne peut pas quand même, malgré tout, être plus génial, plus original? Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose de créatif avec ce plagiat-là?
Ben oui, je pense absolument, oui. Quand je pense à Duras, il y a quand même de l'autoplagiat en masse dans son œuvre, et puis des fois, c'est beaucoup plus génial, replagier une deuxième, une troisième, une quatrième fois. Mais, ouais, en fait, j'ai une anecdote un peu drôle. Quand j'ai fait échographie, j'avais des influences très claires. Donc, Marie Darrieussecq, son journal de bébé, non, j'oublie le... Comment ça s'appelait, ce truc? Le bébé, c'est oui, ça, hein? C'est ça. Ensuite, Angot, son journal, Léonore toujours, et puis, je sais plus, il y avait autre chose. Et c'est bon, j'en avais fait part à Catherine. J'étais très nerveuse. C'est comme si tout d'un coup, je me sentais comme la grande coupable, la grande criminelle, hein, d'avoir été influencée par ces femmes qui avaient écrit sur leurs enfants. Et Darrieussecq a lu le livre en manuscrit, n'a jamais fait le lien avec son. Donc, même quelqu'un, elle n'a pas été plagiée au sens où je n'ai pas pris son texte, mais j'ai été vraiment influencée par le travail qu'elle a fait. Mais elle-même ne se reconnaît pas. Donc, c'est intéressant aussi de voir comment nous, on peut penser qu'on plagie. Et en fait, qui est le plagiaire? L'original ne se rend même pas compte qu'il y a eu plagiat ou emprunt. Mais non, je suis d'accord avec toi. Je pense que le plagiat peut être plus brillant que l'original.
Et l'inverse, parce que souvent, ceux qui accusent, ceux qui font des poursuites légales pour plagiat, en fait, c'est un pur hasard, une pure où il y a quelque chose qui est repris, mais que ce qu'on en fait, c'est entièrement
très
différent.
Loin. Oui, absolument, oui. Et y a une question d'humilité là-dedans. Hein. Pourquoi est-ce qu'on se sent plagié? Ça veut dire qu'on est là, justement, c'est une question de propriété, comme tu disais tout à l'heure. Je pense pas qu'il faut tenir autant à ce qu'on fait. Il faut être un peu humble, quand même être conscient que ce qui vient de nous n'est pas unique, c'est pas la première fois et ce sera jamais la première fois. Et puis bon, il faut lâcher là-dessus, ça, je crois, ouais. Chose assez pathétique, ces poursuites pour des plagiats qui sont tellement éloignés de. Enfin bon.
Ben, c'est la question de Camille Laurence et
Ouais, tout à fait. Marie Darrieussecq.
Tu sais qu'elle aurait
Et Marie Andier et Marie Darrieussecq. Oui. Non, Darrieussecq est beaucoup plagiée, apparemment. Ou elle plagie, non? Ouais. Plutôt, c'est elle qui plagie.
Moi, je me demande, des fois aussi, je pense qu'il y a une... Je vais le dire comme ça, mais il y a une paranoïa du genre. C'est-à-dire, je parle du genre, du gender. Ouais. C'est-à-dire que je pense qu'on est moins dans des plagiats intersexués, qu'on est toujours dans l'impression qu'on est en train de voler quelque chose de son propre genre.
Oui, tout à fait.
Hein, parce que c'est, je trouvais qu'il y avait une paranoïa de, complètement féminine.
Oui, 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 tout à fait.
J'ose le dire, même s'il y a des hommes. Mais dans le Marie Darrieussecq et Camille Laurence. Parce que c'était, tu sais, c'est comme si on se volait quelque chose. C'est, tu m'as volé mon enfant
mort.
Oui,
oui, tout à fait. Hein, c'est quand ça. Même, oui, oui, c'est un peu sauté. Ben oui, puis bon, je le ramène à moi parce que bon, c'est plus facile de parler de moi, mais je pense que j'ai pas eu ce réflexe-là, par exemple, par rapport à Guibert, que j'ai lu énormément en faisant C'est quand le bonheur. Je veux dire, c'était... si j'ai pas plagié Guibert, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai vraiment dans la forme des phrases ou... Et puis j'ai jamais eu l'impression de l'avoir plagié. Alors que là, tout d'un coup, ces femmes, ben, j'étais tout de suite dans une culpabilité. Ouais. Comme ça, on leur devait quelque chose.
Ça me rappelle une autre anecdote, excuse-moi, mais bon, Sainte-Beuve avait vraiment été très, très, très dur envers Balzac, hein, qui n'a pas de style, il y a pas, c'est bâclé, c'est mal foutu. Il a écrit un seul roman avec Sainte-Beuve, c'est Volupté, et pour se venger, qu'est-ce que ça, Balzac a fait? Il a écrit La liste dans la vallée, Volupté réécrit, mais cette fois-ci réussi.
Oui, c'est ça. Alors? Tout à fait.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous ne gênez pas, le micro est libre.
Voilà, je vois que c'est périlleux de te fréquenter.
Ah oui, c'est ça.
Mais je voulais demander au sujet de la maternité. On a vu que dans tes deux derniers livres, pour toi, ça a été une expérience assez angoissante et aussi importante. Est-ce que tu veux continuer à écrire sur le sujet?
Ben, non, je crois pas. Enfin, je veux pas. Est-ce que mon vouloir va être plus fort que le reste? Je sais pas. Mais dans le dernier roman, ça se passe pas comme ça. Ça s'est déplacé. Donc, je pense que la question de la maternité va peut-être rester, bon, sous différentes formes, hein. Ça peut être la grand-mère, ça peut être la mère, ça peut être... mais ce rapport que moi je peux avoir à ma fille, pour le mettre comme ça là, ça c'est en train de se déplacer, ouais. Donc il n'y en aura pas dans le prochain.
Stéphane va venir poser une question.
Oui, c'est une question qui est un peu peut-être curieuse, mais c'est sur ce rapport à la censure et le fait de tout pouvoir écrire et en même temps non. J'aimerais en savoir plus, si possible. C'est-à-dire, où se place cette censure-là? Comment elle se place? Est-ce que c'est seulement dans le rapport relationnel, de l'effet que ça peut avoir sur les autres? Et comment est-ce que ça se joue? Je sais que c'est une question délicate, mais j'aimerais vraiment...
Je ne sais pas si j'ai une réponse claire. Je pense que le plus simple pour moi, c'est de dire que oui, ça se joue dans le relationnel. C'est-à-dire que je ne me censure pas en ce qui concerne rien d'autre. C'est-à-dire que ce que je pourrais dire sur le monde ou sur... Bon, vous voyez, des trucs loin des êtres humains que je fréquente, il n'y a pas de censure. Ça opère pas à ce niveau-là. Mais ça opère dans le relationnel, oui. Et ça, des fois, ce n'est pas... entre l'original et le censuré, dans la version originale et la version censurée, pour un lecteur qui est loin de ma vie, il ne se rend pas compte. Enfin, c'est très, très léger. Donc, mais toujours, pour moi, c'est la parole juste, c'est-à-dire quelque chose qui...
Ça change de sens à ce moment-là, juste. Ce n'est plus auditif ou vocal, c'est non. Une autre justice.
Oui, c'est, ben, c'est une justice, c'est justement. Oui, oui, tout à fait. Peut-être qu'il y a des moments où je me fais violence, c'est-à-dire que je ne m'accorde pas parfois une certaine colère, un côté acerbe. Bon, il y a des choses que je voudrais m'accorder, aller jusque-là, mais peut-être que je n'en suis pas encore capable ou que je n'en suis pas capable, point, que ce n'est pas ma voix à moi. Mais c'est vrai que c'est une question qui se pose. Ouais.
C'est très intéressant comment vous répondez parce que vous faites toujours le lien entre tonalité et éthique.
Ouais,
tout à fait. La réponse passe de l'un à l'autre.
Oui, oui, vous avez raison de le souligner. Non, mais c'est vrai. Oui, ça se joue là-dedans. Oui, tout à fait. Oui, non, mais...
Alors, moi, je ne vous connais pas. Hein. Puis, je ne connais pas Derrida non plus. Mais
vaut mieux connaître Derrida que moi.
Mais vous avez, quand je vous écoute, il y a un sens très aigu de la psychologie.
Ah oui.
Oui, c'est-à-dire que on avait commencé avec l'autre. Cet autre, ce rapport qu'on a, et avec l'invisible, avec les esprits, avec l'autre, le monde. Mais finalement, on en est revenu vraiment à vous. Mais moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est votre rapport avec l'écriture et la souffrance ou le plaisir. Vous avez du plaisir aussi à écrire.
Ah ben oui.
Mais vous avez aussi de la souffrance. Vous dites, tout à l'heure, elle a utilisé le mot cruel. Mm-hmm. C'est l'écriture, il y a une forme de cruauté que vous allez pratiquement chercher en écrivant. Il y a...
Cruauté par rapport à moi, que je me fasse violence ou...
Oui, parce que si vous allez chercher l'écriture, vous vous faites violence, étant donné que c'est de la cruauté.
Mm. Bah, je sais pas. Est-ce que c'est plus difficile pour moi d'écrire que pour un musicien de faire ses gammes ou... C'est du même ordre. C'est une violence de cet ordre-là, pour moi.
Elle vous anéantit pas. C'est juste une.
Mais non, sinon, j'espère que je le ferai pas. Non.
Ok, c'est pas de la cruauté.
Non. Mais je pense que la cruauté. Donc,
méchanceté.
Oui, c'était plus de méchanceté, mais c'est plus vers l'autre, enfin, par rapport à soi, non, non, non.
Et puis l'autre, je le sens pas beaucoup quand je vous écoute.
Quel autre?
Ben, l'inspiration. Par exemple, souvent, les gens ont quelqu'un d'autre qui écrit à leur place, là, quand ils sont...
Ouais. J'ai pas les moyens.
L'automatisme, bien... Mais même l'autre, c'est une inspiration, c'est la muse pour les poètes.
Je n'y crois pas, monsieur, à ça. Je ne sais pas, peut-être des gens qui y croient. Moi, je n'y crois pas tellement.
À l'inspiration?
Non.
Ah, d'accord.
Non, je crois au travail.
Oui, c'est ça que je voulais dire. Je vous sens très psychologique dans le sens matériel, scientifique.
Ben, peut-être. Mais non, c'est vrai que je ne crois pas à l'inspiration. Mais c'est une question intéressante parce que c'est le problème qu'on... Enfin, c'est la question qu'on pose tout le temps aux artistes, de façon générale, je crois. À ceux qui essayent de créer quelque chose. Puis non, moi, je dis toujours, il faut faire ses exercices. Moi, j'allais au café. Il faut y aller 4 heures par jour et puis s'asseoir devant l'ordinateur et travailler. Et puis, bon, il y a des jours où ça marche, des jours où ça marche pas. Mais c'est tout.
Moi, j'aurais une question pour revenir justement sur le plaisir. Est-ce que ce serait de la jouissance dans l'écriture au sens de Barthes? Donc, une explosion et quelque chose qui remet tout en question et qui comble d'une certaine manière, mais simplement comblant en montrant le trou toujours, finalement, en montrant la fissure. Mm-hmm.
Oui, je pense que c'est un peu ça. C'est assez mystérieux, hein, mais c'est vrai que... Bon, je vais le ramener au ras des pâquerettes, disons. Je vais y répondre vraiment de façon très prosaïque. Il y a un plaisir quand on trouve quelque chose. Hein. En gros, c'est une des expressions qu'elle a. Je trouve ou je cherche et ça, je le garde. Et bon. Et quand on trouve, il y a un plaisir. Quand je trouve quelque chose dans l'écriture, il y a un plaisir. Mais ce plaisir disparaît tout aussi rapidement. C'est-à-dire que cette trouvaille donne lieu à une quête. C'est infini. Mais le bonheur, il est dans ça, dans ce processus-là.
Est-ce que vous retrouvez ça aussi dans l'écrit théorique? Ou c'est simplement dans la fiction que
non,
vous...
c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais parce que j'ai pas ce rapport-là à la théorie. Hein. Je pense que des gens qui écrivent... je peux imaginer que Deleuze, Barthes, Derrida, ils trouvaient un plaisir comparable à ce que moi je trouve dans l'écriture, qui n'est pas de l'écriture théorique, mais parce que c'est pas mon véhicule. Bon, plus maintenant, ça l'a déjà été. Ouais. Où je trouvais ce même plaisir. Ouais. Mais peut-être que l'analogue pour moi serait... vous savez le travail qu'on fait quand on analyse un texte. Et quand on trouve quelque chose, on trouve un filon, on trouve la métaphore qui nous permet de tout dénouer. Bon, ce moment-là de limpidité où le texte apparaît, mais dans l'écriture, c'est un peu ça aussi, mais à l'envers. C'est-à-dire qu'on dépose sur le papier quelque chose qui fait apparaître ou qu'on, bon, tout d'un coup, ça, on le voit. Donc, c'est ce plaisir-là, il est central, ouais, je pense.
Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Et chez vous, est-ce que ce serait le lien entre le rythme, la phrase et la voix qui se relierait à l'idée, qui donnerait ce plaisir?
Oui, absolument. Ouais. C'est Duras, comment elle disait qu'elle prenait un mot et elle construisait le sens autour de ce mot. Bon, je n'opère pas comme ça, mais c'est clair que c'est ça, oui. C'est dans cette conjonction. Oui. Dans la musicalité, moi qui ne suis pas musicienne, hein, mais dans ce que j'entends, oui.
Mais la question de l'inspiration, et tu as répondu comme je suis comme un musicien qui fait ses gammes, ouais. C'est-à-dire que tu te vois comme un interprète. Tu ne te vois pas comme...
Je ne me vois pas comme traversée.
C'est ça. Ouais. Tu te vois comme en train d'être... Tu te vois comme...
Ouais.
C'est-à-dire... Parce que la question de l'inspiration, elle rejoint quand même la question de l'imagination.
Oui, oui, tout à fait. Mais je pense que là, bon, j'ai répondu un peu comme ça parce que j'aime pas trop ce truc du... on écrit quand on est inspiré. Puis bon, ça, c'est le côté pédagogue aussi. Oui. À mes étudiants, ben, n'attendez pas l'inspiration, vous allez attendre longtemps. Il y a un moment où il faut se mettre au travail et l'inspiration vient dans l'exercice de, je sais pas, moi, je mets les mains sur le clavier et puis dans ce travail, dans ce contact à la machine, il y a quelque chose qui arrive. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je peux me sentir traversée. Okay. Je peux sentir que quelque chose passe qui est, comment on peut dire, plus grand que moi, ailleurs, à l'extérieur de moi, qui vient d'on ne sait pas où. Oui. Est-ce que c'est ça de l'inspiration? J'en sais rien. Mais si je ne suis pas devant mon clavier, dans un café, avec bon, cette espèce d'environnement susceptible, enfin, qui peut me permettre d'être susceptible à cette transmission, il n'y a rien qui se passe. Tu vois, je veux dire, je pense que le...
Oui, mais tu peux le voir de l'autre côté, c'est-à-dire tu peux te dire c'est un don d'être capable d'aller dans un café et de croire qu'on va, quand on va être devant son ordinateur,
que
tu vois, il y a quelque chose qui t'est quand même donné dans le sens... Même si tout est travail, tu peux quand même te dire... Il y a quelque chose qui m'appelle que
oui tout, non non
que d'autres non ouais. ne peuvent il y a certains ne peuvent pas répondre à cet appel là
oui, tout à fait. Non, c'est vrai que ça, c'est peut-être quelque chose que je ne m'accorde pas. Mm-hmm. mais je peux quand même m'accorder que c'est mon mode, c'est ma façon d'aller ou d'être en contact avec ça. Oui, peu importe ce que c'est.
Oui, mais moi j'exagère, hein, mais je vais te dire quand même, je trouve que tu fais semblant de pas avoir d'imagination, que tu fais semblant de pas avoir d'inspiration, mais que c'est comme ça que t'écris. Tu vois ce que tu dis, c'est mon mode, c'est que.
Oui, peut-être.
Mais je suis pas sûre que t'as. Tu vois ce que, même si c'est une, ce serait une position tout à fait, ça serait une position tout à fait défendable.
Mais c'est faux, évidemment, mais je le reconnais. Je veux dire,
c'est faux. Mais c'est ce qui te permet un dispositif d'écriture aussi. C'est ce qui fait que.
Oui, peut-être. Ouais. Mais tu sais, en même temps, je sais pas, je sais pas comment c'est pour toi, mais je sais que quand j'écris, une année, deux années, c'est énorme. Je veux dire, entre ce que j'ai fait il y a deux ans ou ce que je fais là, je serais plus prête maintenant à dire, ben oui, il y a de l'imagination, mais bon, oui, je reconnais qu'il y a autre chose qui se passe. Parce que quand j'ai fait C'est quand le bonheur, le dispositif était très important, beaucoup plus qu'il ne l'est devenu depuis. Donc, ouais, je pervertis aussi un peu... les choses en les présentant comme ça.
Je pense pas que tu les pervertis, je pense que c'est cette façon-là, c'est cette façon de les présenter qui te permet d'écrire. Ouais. Tu vois, je te pense pas de mauvaise foi.
Non,
je te pense, mais je te pense de, que c'est, tu te dis c'est un travail, c'est je suis pas inspirée, moi je travaille, moi je suis une interprète, oui, tu vois, et que c'est ça qui te permet d'écrire.
Ouais, peut-être. Ouais.
C'est la ruse que tu as avec toi-même.
Oui, possible. Ouais.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui.
Moi, j'ai mais par rapport à l'inspiration.
Il va falloir peut-être. Est-ce que vous pouvez. Je peux vous passer le.
Je peux parler plus. Par rapport à l'inspiration, l'inspiration vous vient quand vous décidez de prendre votre stylo, et puis là, l'inspiration doit venir, ou par le fait que vous ayez pris le stylo, l'inspiration vous vient, ou alors l'inspiration est quelque chose qui est comme. Omniprésent, vous l'avez eu quelques minutes auparavant, et puis il faut que vous l'écriviez plus tard. Puis quand vous allez l'écrire plus tard, ça va partir tout seul.
Ouais. Non, moi je le dirais plus, je m'assois, je dépose les mains et ça arrive. Je mise sur le fait que ça va arriver. Mais ça peut arriver au bout de 3 heures, ça n'arrive pas forcément au moment où je touche le clavier.
Vous n'avez pas fait déjà votre histoire avec la mémoire?
Non. Non, je crois pas. Mais bon, vous savez, sur la longue... quand on écrit un roman, il y a un moment où les pages sont dans notre tête. Hein? Ça, c'est pas... Je pense qu'on ne peut pas non plus voir l'écriture comme un... Comment je peux dire? Dans le résumé à une seule expérience. C'est-à-dire entre le début d'un texte et quand ça fait déjà un an qu'on travaille dessus et la fin, il y a des différences. Donc, est-ce que je peux parler d'inspiration maintenant quand je retravaille le dernier roman? Non, je ne crois pas de la même façon. Je pense que c'est peut-être une question de disponibilité. Vous savez, où on se sent disponible à ce qui va arriver. Est-ce que ça va arriver ou ça va pas arriver? Donc, il y a des moments où je me sens en disponibilité. Ouais.
Et quand vous plagiez?
Mais là...
Attention.
OK. Wow. On vient de faire un saut, là.
Mais non, parce que moi, je parle du principe qu'on est tout le temps en train de plagier.
Oui, 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 non, tout à fait.
Quand vous plagiez, ce sont des voix que vous entendez.
Mm-hmm. Ouais.
Donc, ces voix, elles sont plus ou moins fortes. Et
ouais.
Quand elles sont fortes, c'est comme de l'inspiration.
Comme de l'inspiration, oui.
L'imagination
de... Oui, oui, oui.
Mais par rapport au plagiat, jusqu'à quel point on a le droit d'utiliser, de parler au nom des autres?
Ben, je ne sais pas si c'est ce qu'on... Enfin, ça dépend de ce qu'on entend par plagiat. Là, moi, si vous dites plagiat, je pense à ce qu'on emprunte, à ce qu'on prend chez les autres.
Oui,
directement. Pas parler au nom d'eux.
En guillemets.
Ouais, c'est ça. Bon, écoutez, je ne sais pas si je peux répondre à ça. Je pense, ouais.
Il y a des normes, non? Il y a des lois.
Ah ben oui, mais bon.
Les lois ne sont peut-être pas les lois de la création, hein?
Ouais, c'est ça. Peut-être que la littérature a d'autres lois ou n'en a pas.
On va s'arrêter là peut-être pour ce soir. Mais je vous remercie beaucoup d'avoir été là et on remercie énormément Martine.
Merci à vous.
Merci Catherine.